Eh bien, nous terminons notre journée, comme on l'a fait souvent, ici même et ailleurs, par la conférence de Francisco Arauta, qui est en même temps philosophe, historien de l'art, homme de, je dirais, Weltmann, homme qui a visité le monde entier. Un livre récent qui lui a été consacré a comme titre Francisco Arauta, passeur des frontières de Babel. Je dirais que le titre est parfait, passeur des frontières de Babel, et c'est aussi sa manière de penser la culture contemporaine, notamment à travers les volumes et les colloques qu'il a dirigés de la Fondation Marcelino Bottin, de Alexandrie à la Bibliothèque Virtuale, Le Monde des cartes géographiques, Les étoiles du voyage, De la ville des anciens à Cosmopolis, Histoire et forme de la curiosité, et plusieurs autres volumes. Mais il a aussi organisé des expositions précieuses, comme Le séjour de Matisse à l'Alhambra ou Le fil d'Ariane sur les voyages et les lectures qui sont liées à ces voyages. Enfin, c'est pour dire qu'il a vraiment créé une espèce de grand monde, là aussi de cosmopolis, d'utopie, d'amitié. Et je rappellerai aussi qu'il a traduit et fait traduire en espagnol le journal de Pontormo, le Momus de Léon Baptiste Alberti et les pierres de Venise de Ruskin. Donc on est vraiment dans la plénitude d'un monde entièrement, je dirais, visité, caressé, aimé et mémorisé, comme du reste sa formation, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, et maintenant tous tes cours et voyages en Amérique latine. Alors, je suis très honoré, très heureux de te donner la parole pour ce voyage, encore une fois, au cours de nos années, pour mieux passer les frontières de Babel.
Et bonjour, chers amis, Carlo, et bon merci par toujours par ton invitation. Le grand plaisir de partager l'amitié qui nous accompagne de longtemps, ça nous donne le droit de partager aussi les idées. Et cette discussion sur ce partage, dont partage, nous introduit toujours dans de nouveaux projets, ici à Paris, en Espagne, en Italie, un peu partout, enfin, même l'Europe, c'est un petit pays, et chaque fois en plus, nous nous reconnaissons de cette appartenance. Ça me fait un grand plaisir de suivre la conférence de tous les amis et collègues pendant la journée, avec des références d'exceptionnel intérêt pour moi, curieux par principe. Et c'était l'occasion de démontrer une fois en plus mon ignorance. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, et c'est à l'occasion de... Et ça a été un plaisir de suivre la conférence de Corinne. Nous avons fait, avec ma femme et mes amis, la traverse de l'Afrique, de Dakar à Djibouti. Et nous sommes passés des jours très, très, très mémorable à Cotonou, et je ne sais pas si je devrais vous demander des appuis juridiques, mais il y a une très belle sculpture Ife que je l'ai achetée à Cotonou. J'avais peur quand j'ai passé les contrôles à Orly. Je suis descendu, j'ai fait tout Paris, et pratiquement de Montmartre à Saint-Michel, et dans chaque sémaphore, j'ai porté la sculpture pour le voir. Ah, comment il est bel. Et quand j'arrive à Orly, c'est passé comme ça, j'étais un peu inquiète par le contrôle du patrimoine. Justement, les contrôleurs, c'est un Africain. Il se trouve devant la tête et avec une très grande admiration, dit « Mais c'est une Ife. » C'est le groupe Ife, une tradition très remarquable pour la sculpture, et a bloqué la ligne et tout le monde protestait en France. C'est normal. Mais le monsieur avait la tête en main en disant « Mais félicitations, monsieur !» Et c'était vraiment très, très, très content. Je voudrais vous donner une petite explication sur mon titre. « Héritier sans testament ». J'ai travaillé dans ce jour-là et pour mon séminaire à Berlin, à la Humboldt, sur le cahier de Valérie de 1923. Je devais contraster deux textes, Eupalinos, de Valérie, avec Das Land in der Mitte, le texte de Tessenov, sur Berlin. Travaillé là, je me suis trouvé avec ces héritiers en testament. Et dans ce moment, m'arrive à la maison Europa Retrovata di Carlo. Et ça a été justement la coïncidence entre chercher un titre et développer un argument. Le titre, ce n'est pas moi, ça vient de Cahiers Valéry 1923, après Eupalinos. Et l'argument, la séquence que je vous propose maintenant, brièvement, je le ferai, c'est dans ce livre, partie seconde, Europa Retrovata, le premier chapitre, c'est Ulysse et Enea, de la dignité de la quête et de l'obligo de responsabilité. Ça a été comme ça. De la dignité de la quête, de la recherche, de ce qu'on cherche et de l'obligo de la responsabilité. Et comment présenter cette question? Ulysse et Enéas. Pour Carlo, restent les deux références qu'on pourrait dire symboliques, même mythologique, symbolique, plus. Alors, j'ai commencé à travailler sur cet argument. Il y a beaucoup de coïncidences aussi avec le... Et je me trouvais devant cinq scénarios entre 1922 en 1947, je cherchais des moments après la Grande Guerre en 1947, moments texte dans lequel on parle de la disparition de Luz et la mort d'Énéas, même quand Carlon nous propose de récupérer Luz et Énéas. Premier scénario. ...1943-1945... il y a des photos formidables de Eric Auerbach se promenant par Istanbul des jours très singuliers. Il est en train d'écrire son chef d'œuvre, Mimesis, que nous tous, nous avons lu avec plus d'enthousiasme. Plus tard, je cherchais la correspondance, les lettres écrites à Ankara, Auerbach, qu'il raconte avec un ton mélancolique en disant « J'écris ces pages sans bibliothèque pour protéger une tradition. Si on arrive à un moment dans lequel l'Occident puisse disparaître, la mémoire ne protège pas l'histoire suffisamment. Et alors, Eric Auerbach, qui vient de la grande tradition allemande, de Curtius, de Leo Spitzer, de Karl Vossler, il écrit cette Mimesis. Il avait écrit déjà son texte, son grand texte sur Dante, mais il fait une observation. Cette fois, la référence intellectuelle ne sera pas Dante, pour lequel la littérature et le lieu de la vérité, mais ça sera le chapitre, le livre 10 de la République de Platon. Ça veut dire que la littérature sera dargestellte Wirklichkeit in der abendlichen Literatur. Sarà la rappresentazione reale della letteratura occidentale, della letteratura occidentale. Si on controlle l'index de Mimesis, on commencera avec la blessure de Luz. Vous l'avez présent, et on finira avec un texte de Proust. Ça sera l'occasion de faire même un petit défi pour nous, si nous trouverons une occasion dans une situation, pas nécessairement entre Istanbul et Ankara, et nous voudrions protéger la mémoire de l'histoire, et nous aimons la littérature, on écrirait un texte, mais quels seront les chapitres? Quand j'ai commencé à lire de nouveau, Auerbach, j'avais besoin d'une nouvelle lecture d'Arbeit, un mythos de Blumenberg. ce chapitre de Blumemer, j'ai eu la fortune d'être étudiant avec Blumenberg. Cette structure, ce n'est pas seulement la littérature, ce n'est pas seulement l'art, cette promenade formidable par le musée Vatican. Ce n'est pas seulement la science, cette Descartes entre Newton, cette mécanique soudaine. On se retrouve devant une situation très, très complexe. Arbeit en mythos de Blumenberg nous offre ce complexe travail de construire la représentation du monde. Et la construction de la représentation du monde produit un effet que Blumenberg identifie comme die Lesbarkeit der Welt, la legibilità del mondo. Mais il n'y a pas legibilité sans représentation. Mais la représentation, dans la tradition blumenbergienne, reste très complexe. 1946, à Berne, Auerbach publiera Mimesis avant de partir pour Connecticut, à New Haven. Premier scénario. Cette recherche, Auerbach, nous sommes 1943-1945, le contexte historique, politique, on l'a commenté en avant, mais qui produira surtout une angoisse, une Stimmung, qui présentera dramatiquement un final. Ces pages-là sont écrites pour protéger la mémoire, même en savant que la mémoire ne protège tellement l'histoire. 1943-1947. Je vous promets d'être bref. Les mêmes années, 1943 et 1945. Et nous laissons Istanbul, l'album photographique. J'ai pu consulter cet album à Berlin, c'est exceptionnel. Et même les jours à Ankara, avec la correspondance d'Ankara, rien à voir avec notre scénario 1943-1947. Le lieu, la petite ville, plus, c'est possible, une des plus beaux scénarios du monde, ce sont les palissades de Santa Monica. Les palissades de Santa Monica, tout près de Los Angeles. Il y a une très grande documentation sur ce rendez-vous. Tous les après-midi, un groupe d'amis que vous connaissez bien, vous pourriez dire, ah, c'est mon ami. C'est Adorno, c'est Horkheimer, c'est Marcuse, c'est femme. Ils se retrouvent pour avoir une conversation sur ce qu'il se passe dans l'Europe de 1944-1945. Les deux dernières années de la Seconde Guerre. La conversation est enregistrée par la femme d'Adorno. Et maintenant, on peut consulter à Francfort, dans l'archive de l'Institut für Sozialforschung, vous pouvez consulter les 7 cahiers qui racontent les conversations de cette année-là. La situation, c'est tout à fait différent de ces promenades d'Auerbach à Istanbul, sans bibliothèque. Et les jeunes francfurtiens, qui après passer quelques mois à New York, se réfugient à Los Angeles et à la fin restent sur les palissades de Santa Monica. Quand il rentre, avec une structure qu'Adorno racontera toujours provisionnelle, mais qui est restée définitive, à Amsterdam, Amigo Press, 1947, est publié Dialectique de l'Aufklärung. Et Adorno, il dit toujours que c'est une réflexion sur Odysseus, que les autres chapitres sont la compagnie au test, mais que le centre, l'axe de ce test, c'est l'argument, c'est Odysseus. Ça, c'est la même chose, Carlo. Il a eu la gentillesse de citer le Pierre de Venise. Ruskin, il dit, ce livre, c'est une réflexion sur le gothique, pas sur Venise. Et le gothique, c'est le troisième chapitre. Après, ils sont arrivés des autres matériaux, mais ça, c'est cycle gothique. Ça, c'est la question. Dialectique de l'Aufklärung, c'est justement une réflexion sur Odysseus, sur Ulysse. À l'occasion du 50e anniversaire de la publication de Dialectique de l'Aufklärung, Francfort a organisé un séminaire. J'étais invité à participer et c'est pour ça que je me permets de travailler pendant une semaine dans l'archive. Je voulais voir les notes de Santa Monica. Et dans le troisième cahier, sur les marges du cahier, avec la lettre d'Adorno, il avait cette observation. Was ist passiert mit Odysseus? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Ulysse? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Ulysse? Pour dire comme ça, la question principale de cette histoire occidentale, c'est la disparition d'Ulysse. Et voilà. Carlo, il disait que la question, c'est une restauration d'Ulysse et d'Enéa. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Ulysse? Passirte, mit Odysseus. Il y a des hypothèses qui sont tout à fait intéressantes, mais pas explicitées dans les textes. La première, on parle pour la première fois des naufrages. Des naufrages. La symbolique des naufrages reste centrale dans la culture moderne, moderne romantique. Hier matin, nous étions au Louvre pour la visite à l'exposition de la Croix. J'étais très content de voir comment la troisième partie de l'exposition, on a récupéré un de la Croix, que normalement, ce n'est pas fréquent dans les grandes expositions, mais le naufrage restait central. Première possibilité, le naufrage d'Ulysses, du Schiffbruch von Odysseus. Mais il y a une autre observation, une possible seconde hypothèse, très près de quelques texte de Kafka. Peut-être ce qu'il s'est passé, c'est une métamorphose, une transformation de lui. Peut-être. Mais de quelle métamorphose vous parlez? Peut-être qu'il s'est transformé en un bon bourgeois. Et c'est ici avec nous. Peut-être qu'il est devenu un industriel, un commerçant, un businessman, je ne sais pas. Mais on laisse la porte ouverte pour parler de métamorphose, d'Ulysse. Dürrenmatt a repris cet argument pour une pièce dans laquelle il parle des métamorphoses en pluriel. Quelles étaient les conditions fondatrices de l'Ulysse homérique? Une profonde soif et une puissable curiosité. Ulysse est associé au voyage. Soif et curiosité. Peut-être que les arguments qui viennent présentés dans les conversations de Santa Monica ont à voir soit avec l'idée d'une transformation, soit avec l'idée d'une métamorphose. Naufrage ou métamorphose. Premier scénario, nous nous promenons par Istanbul avec Auerbach. Petit café, le café turc du soir. Les autres sur les palissades ouvertes sur l'océan Pacifique. Je crois qu'ils ne prendront pas un café turc, mais un bourbon. Le soir, un bourbon sur le palissade, c'est parfait. Entre Santa Monica et Ankara, un troisième scénario, toujours en rapport avec notre question sur la disparition de Ulysse Et l'argument de Carlo, c'est la récupération d'Élise et de Néa. Nous sommes aussi de 1945. Il y a un document, un registre phonique. C'est très important d'écouter sa voix. C'est très important d'écouter sa voix. On est en train d'écrire un grand livre de la première moitié du XXe siècle. C'est un livre pas écrit. Alors, c'est parce qu'il a été dicté. Il a été dicté. Quel est le livre? Virgilius Tode. La mort de Virgile. Troisième scénario. Ici, on ne parle pas d'Ulysse. Ici, on parle d'Énéas. On parle ou on ne parle pas d'Énéas. Toute la structure du roman est orientée pour ces monologues de Virgilio, un grand monologue de Virgilio qu'il faut écouter avec l'accent de Hermann Broch, avec cette voix très, comme d'en bas de la Bulgarie, en bas très, très bas. Pas seulement dramatique, ça donne un ton à un certain moment un peu apocalyptique. On a changé l'argument, pas plus, Odysseus, Ulysse. Maintenant, c'est Virgilio qui se demande les trois dernières semaines avant sa mort, qui nous présente des questions fondamentales. La première, sur la possibilité de la connaissance. Il y a, on pourrait dire, un sceptique dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on reconnaît dans les textes de Broch, Virgilio Stoda, une présence très moderne. On a fait tout pour éliminer de la tradition moderne l'élément sceptique. On a fait tout pour éliminer toutes ces composants qui, de Montaigne à Cervantes, continuent contre, c'est venu cette stratégie de proposer un modèle, on pourrait dire cartésien, newtonien. Tout d'abord, sur la possibilité de la connaissance. Deuxièmement, une question qui vient présentée d'une manière très directe. L'art, est-ce que l'art nous peut sauver de la mort? Art et mort. Et après, plus tard, art et catastrophe. fait seulement quelques années que Benjamin avait écrit ce petit texte sur Escompte, existe des catastrophes. Là, c'est la catastrophe qui arrive. L'art pourrait bloquer la mort, la mort de Virgilius reste un document exceptionnel. Nous nous protégeons avec la mémoire d'une littérature. Premier scénario à Auerbach à Istanbul. On pourrait parler aux palissades de Santa Monica en cherchant une réponse à la question « Va t il se passer, mit Odysseus ?» d'une manière plus dramatique. Broch nous présente la mort de Virgilius. Maintenant, quand je venais de mon hôtel, rue Odéon, sur le trottoir droit, en montant vers le théâtre, une petite
affiche,
pas affiche, en pierre, et plaque. En 1922, Sylvie Plath a édité Ulysses de Joyce. Sylvie Plath édite toute cette réflexion des trois premiers scénarios. On pourrait les compléter avec ce quatrième, ce quatre. Paris, 1922, Ulysse publie son Ulysses. Joyce publie son Ulysses. Et je risque beaucoup si je vous dis que toute l'histoire d'Occident on pourrait la tracer entre les deux Ulysses de la littérature. L'Ulysse fondateur, c'est l'Ulysse homérique. Et le final, il n'est pas. Le final, c'est l'Ulysse de Joyce. Le premier Ulysse part. Il part. Baudelaire reprendra l'argument, c'est le même voyageur, ce qui part pour ne pas rentrer. À la fin, Ulysse rentre. C'est une discussion très complexe. Mais c'est dominé par le voyage, par la quête, disait Carlo. Léopold Bloom, l'Ulysse de Joyce, n'est pas dominé par le voyage, mais il est dominé par l'errance. L'errance. 1320 pages pour raconter 28 heures de Léopold Bloom, pas mal. 1320 pages, ce sont les manuscrits de Joyce, pour raconter 28 heures dans la vie de Léopold Bloch. À la fin, ces monologues, pas les monologues de... pas les monologues de Virgilius, mais les monologues de Molly. Cette femme exceptionnelle à la fin de l'Ulysses. Une perspective sur l'expérience. Cette errance reste centrale. Je pense que on a étudié beaucoup la lecture que Bloch avait faite de l'Ulysses de Joyce. Virgilius Todé a d'avoir avec la lecture que Bloch fait du texte de Joyce. Mais parallèlement, je voudrais vous proposer aussi deux moments que je considère exceptionnels dans cette ligne que je vous commentais maintenant sur la centralité de l'Ulysses de Joyce comme finale d'une histoire. Une histoire qui commençait comme un voyage ouvert, une errance circulaire qui représente l'histoire de Léopold Bloch, de Joyce. La première, c'est annoncé dans 1917. Je viens de publier un texte sur cet argument dans sa revue Die Fackel. Karl Kraus commence à écrire des fragments que, avec une première édition, on attendra une deuxième de 1926 avec le titre Die letzte Tage der Menschheit, Le dernier jour de l'humanité. C'est un texte avec une intensité dramatique intentionnée. Ce sont très importants les années 23, 24, 26 de la culture middle-européenne. Mais je voudrais partir seulement d'un petit texte qui dit « C'est le final de Das techno-romantische Abenteuer ». Le final, d'une techno-romantique aventure. Krauss a une précision linguistique exceptionnelle. Lo sapeva bene. Il rappresenta, interpreta ancora meglio la Grande Guerre come le finale di Das techno-romantische Abenteuer. È le finale di una storia. E questo finale coincide con le dernier jour de l'humanité. Pourquoi cette obsession sur ce qu'on pourrait dire, ce besoin de se protéger, ce besoin de récupérer l'histoire qui arrive à la réflexion de Carlon avec la revendication de Louis et d'Enéas? Je crois que Carlon appartient à cette tradition. Je ne voudrais pas, je ne suggérerais pas une confession ou une... Mais C'est formidable de lire ce texte. Quand entre les 43 et les 47, Auerbach, California, Broch, la voix de ces trois semaines, la voix de Virgilius, de Virgile, das techno romantische Abenteuer. Parallèlement, je cherche de finir un cinquième scénario. Peut-être soit considéré comme le philosophe qui a hérité toute cette grande tradition rationaliste. Je pense à Edmund Husserl. À Freiburg, en Breisgau, il prépare le manuscrit pour l'invitation qu'il a eue de Vienne, de Vienne et de Prague pour faire une conférence qu'elle intitulera Die Krise der europäischen Wissenschaften. Et qu'il donnera à Vienne et à Prague en 1935. Donnera cette conférence, et vous savez, en main, le manuscrit Die Krise der europäischen Wissenschaften. La mort de Husserl arrivera 2 années plus tard. Et on peut le reconnaître comme son testament. La pensée, la philosophie n'est pas capable d'interpréter le monde. Il construit une argumentation très directe sur les incompétences de la philosophie, du rationalisme. Il y a des choses qui tombent en dehors de la compétence de la science. Tout ce qu'il embrasse avec l'argument de la Lebenswelt, del mondo, del mondo della vita, cette Lebenswelt. Il y a un écho nietzschéen, il y a un écho d'Hilthéen, il y a un écho absolument. Simmelien, tous les grands philosophes des premières années de 1900, du 20e siècle. D'une manière plus sociologique, il se permet de nous inviter à interpréter une situation qu'on pourrait interpréter, il dit comme ça, comme une question centrale, die Frage, et la vera question. 1937, dans le café du Palais Royal à Paris, le premier mercredi chaque mois. Il se réunit les membres du Collège de sociologie, Georges Bataille, Benjamin même. Et il parlait justement de ce que, dans ces années-là, Husserl avait déjà présenté. Dans ces moments-là, on parle toujours d'une petite lettre de Max Weber de novembre 1919. Après la discussion sur le final de la Grande Guerre, Max Weber, il écrit comme ça, « C'est pas l'Allemagne qui a été vaincue. Ce qui a été vaincu, c'est la raison, et en plus, la raison pratique. » Max Weber, novembre 1919. Je vais finir, mais je me permettrai de faire rapide parcours. Tout a commencé par l'invitation de Carlo à parler dans ses colloques. J'ai travaillé pour mon séminaire à Berlin sur les cahiers de Valéry, 1923. Nous sommes toujours la guerre. Nous sommes des héritiers sans testament. Arrive Europa retrouvée. Il faut récupérer Ulysse et Enéa. Et je me trouve devant ces scénarios qu'entre 1943 et 1945, on parle de la même question. Cette situation triste, je retrouve un petit texte de Marcel Proust publié le 1er avril de 1900 dans la Gazette des Beaux-Arts. C'est un texte admirable. On craignait l'autre jour pour la vie de Tolstoï. Ce malheur ne s'est pas réalisé. Mais le monde n'a pas fait une perte moins grande. Raskin est mort. Nietzsche est fou. Nietzsche mourra le 20 août à Weimar. Nietzsche est fou. Tolstoï et Ibsen semblent au terme de leur carrière. L'Europe perdent d'un après l'autre ce grand directeur de conscience, Proust, Tolstoï, Raskin, Nietzsche, Ibsen, ce grand directeur de conscience, directeur de conscience de son temps, certes, Raskin le fut, mais il fut aussi son professeur de goût, son initiateur à cette beauté que Tolstoï réprouve au nom de la morale et dont Raskin avait tout poétisé jusqu'à la morale elle-même. Avril 1900, Gazette des Beaux-Arts. Et voilà Proust avec cette réflexion épocale sur une situation où le maître de conscience commence à disparaître. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Was ist passiert mit dem Odysseus? Un naufrage, une métamorphose, et bien sûr, sans illusion, tous nous sommes naufragés. Seulement nous reste cette errance, se transformer en Léopold Blum et se promener par la rue Odéon. Merci.
Eh bien, nous avons commencé l'après-midi par l'évocation d'un directeur de conscience, Jean Staromanski, grâce à Françoise Viat, et nous terminons par une belle perspective concernant le XXe siècle, dès son commencement, Marcel Proust, puis Eric Auerbach, avec les commentaires de Blumenberg, Adorno et, bien sûr, et nécessairement, Hermann Brock, La mort de Virgile, en passant par Husserl et, sans oublier, bien sûr, Karl Kraus et l'Ulysses de Joyce. Certes, quand on voit ce titre, Les derniers jours de l'humanité, aussi le parcours que Francisco a fait, on serait plutôt pessimiste. Les maîtres disparaissent les uns après les autres. C'est vrai, c'est un temps sans maître et aussi sans marteau. Hein. Ça aussi, c'est une, pour paraphraser l'un des titres célèbres du XXe siècle. Donc, on comprend maintenant mieux son titre, Héritier sans testament. Pour terminer, je ne dirais pas sans pessimisme, mais pour rappeler quelques maîtres qui sont encore là, je me permets de vous par leur œuvre, bien sûr, de vous convoquer encore le 22 juin, me semble-t-il, c'est un vendredi, en tout cas, le vendredi qui doit être le 22 ou le 23, et pour mois de juin, pour discuter, et nous retrouverons les mêmes problèmes, pour discuter ensemble le premier tome de la correspondance d'Yves Bonnefoy. Nous avons pris, j'espère que ça deviendra une habitude, l'idée de nous réunir à l'occasion de ces 10 jours qui sont entre son anniversaire et sa disparition, parce que nous considérons qu'il est toujours présent. Et ce premier tome de la correspondance est impressionnant. Il a une autre géographie que celle-ci, mais avec les mêmes principes. Avec les mêmes principes, ça signifie que Yves Bonnefoy a cherché des questions. Pierre Rosenberg nous l'a évoqué ce matin, les grands maîtres, les classiques, ceux qui portent notre mémoire, posent plutôt des questions, ouvrent des chemins. La réponse n'est pas immédiate et n'est pas pour nous. Il s'agit d'améliorer notre conscience des questions posées par les classiques et on le trouve exactement dans ce, et avec une très grande richesse, je dirais, de beauté esthétique, d'humanité, de dignité morale dans ce premier tome de la correspondance Bonnefoy. Donc, je dirais que la seule manière de bien conclure, c'est de reposer ces mêmes questions que Francisco a posées au moment où on les verra traitées par Yves Bonnefoy, surtout avec les auteurs qui étaient ses amis, qui ont modifié notre conscience du XXe siècle. Magnifique la correspondance avec Michel Butor, magnifique la correspondance parlant, par exemple, d'une première absolue à la Fondation Mag de Stockhausen, de Spirale de Stockhausen, etc. Je vais pas, on le verra ça au mois de juin. Mais je voulais aussi dire que c'est en respectant votre générosité que je n'ouvre pas la discussion, parce que ça nous porterait encore plus loin. Du reste, il y a beaucoup d'arguments qui ont été soulevés pour méditer longuement. Je dirais simplement que l'un des fruits qui m'est surgi en vous écoutant et en voyant aussi votre fidélité est le suivant. Le thème est venu à peu près dans tous les exposés de la journée. L'une des questions de notre pauvreté, pauvreté intellectuelle, pauvreté morale, le fait que nous ne prenons plus de distance et que la saisie, la tradition, c'est aussi une saisie, mais la tradition se faisait par des mots. Le mot est déjà une mise à distance de l'objet, et comme nous n'avons plus de mots, la saisie se fait directement par les mains, d'une manière un peu brutale. Les mots servent aussi à cela, à mieux décrire, mieux mémoriser, prendre de la distance et du respect. Ce qui fait que, contrairement à mes habitudes, vous le savez, mes habitudes sont plutôt pour l'ellipse, l'effacement, les mots brefs, et contre mes habitudes et peut-être aussi contre mes intentions, mais en voyant ce qui vient de notre temps et de la discussion de ce matin, j'irai consacrer le cours de l'année prochaine à l'éloge de la description. Éloge de la description, ça signifie simplement que nous devons avoir les mots pour nous concéder une autre saisie de l'objet qui ne soit pas cette espèce de brutalité qui nous fait tout avaler et tout détruire en même temps. Voilà. Peut-être ce sera, je ne sais pas, j'ai peur qu'il s'agisse de quelque chose qui peut aussi entraîner une certaine fatigue à répétition, je ferai de mon mieux, mais je sens que c'est une nécessité primaire. Tant qu'il n'y aura pas le retour des mots comme prise de distance et de respect, ben la transmission sera de plus en plus pauvre et difficile. Il me reste simplement de vous remercier tous et très vivement, ceux qui ont eu la gentillesse d'être là pendant toute cette journée, les amis qui sont venus de loin avec des difficultés que nous savons de parcours, de souvent le temps du parcours bref est plus long que le parcours long. Je remercie vraiment tous de mon cœur. Je pense que à la fin de cette journée, nous pouvons dire, moi j'ai vu que tout le monde avait un texte déjà rédigé, nous pouvons penser à des actes pour cette journée. Il faudra trouver des subventions pour les images, mais sans images, on ne peut là aussi rien faire. Et voilà, nous nous donnons rendez-vous pour rappeler et être parmi nous et la présence d'Yves Bonnefoy, donc le 22 juin. Pour ceux qui n'ont pas pu assister l'année dernière au film que nous n'avons pas le droit de diffuser, mais seulement projeter une fois, parce qu'il y avait l'orage, il y avait toutes sortes aussi de complications, eh bien, à la suite, donc à 16h30, à la fin de la journée Bonnefoy, nous irons projeter une nouvelle fois ces documents rarissimes, interviews, lectures, films même, d'Yves Bonnefoy en terminant, comme aujourd'hui, autour de 18 heures. Alors, merci infiniment. Je ne vous dis pas encore bon été parce que nous avons encore à travailler. Merci.